Alors, sur le programme, c'était indiqué vers le congrès avec Marie. Je présume que c'est vers le congrès eucharistique qui sera célébré l'an prochain à Québec. Et lorsqu'on va s'en aller à Québec, il faut faire des bagages qu'on fait la veille de partir en ce qui concerne le nécessaire pour vivre quelques jours à un autre endroit. Mais il y a un autre bagage qui est très important, qu'il faut commencer aussitôt que possible. C'est un certain bagage de connaissances sur l'Eucharistie avant de se rendre au congrès, si vraiment on veut en profiter. Si on a une bonne connaissance, les conférences que nous allons entendre, les célébrations que nous allons vivre, vont être beaucoup plus significatives. Alors, je vais vous présenter un certain bagage de connaissances pour mieux vivre le congrès. Je vais vous présenter trois livres essentiels sur le bagage eucharistique. Le premier livre, c'est le document théologique de base qui a été préparé en vue de ce congrès. Il s'appelle « L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ». Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera l'Eucharistie, mais surtout en relation avec la Vierge Marie. Dans ce document, on parle du rôle de Marie en relation avec l'Eucharistie. On la considère comme Marie, première église et femme eucharistique, en insistant sur la foi de Marie à l'occasion de ce sacrement. Et on la présente comme, au pied de la croix, comme l'icône douloureuse et glorieuse. Et il y a encore aussi quelques notes brèves sur croire et aimer comme Marie, toujours en relation avec l'Eucharistie. Mais le chapitre le plus beau à lire pour vraiment se préparer, c'est le dernier chapitre de l'encyclique que nous a laissé Jean-Paul II, c'est sa dernière encyclique. C'est écrit ici « L'Église et l'Eucharistie ». Ceux qui savent et celles qui savent le latin, c'est une mauvaise traduction. C'est « L'Eucharistie vit de l'Église, vit de l'Eucharistie ». C'est tout à fait différent. Et c'est le chapitre 6, qui est un chapitre vraiment extraordinaire, à l'école de Marie, femme eucharistique. C'est là qu'il faut apprendre comment vivre l'Eucharistie. J'en ferai quelques références tout à l'heure. Mais le document le plus important et le plus récent, c'est ce qu'on appelle l'exhortation apostolique post-synodale, Sacramentum Caritate. Vous savez qu'il y a eu un synode sur l'Eucharistie, et c'était en 2007, en 2006, j'entends, et en 2007, le pape a sorti le document qui est une synthèse, un résumé de toutes les réflexions qui ont été présentées par les évêques à l'occasion de ce synode. Alors le titre, c'est « L'Eucharistie est un sacrement d'amour ». Et le grand titre, c'est « L'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église ». Quatre mots importants, « source ». C'est là, vraiment, le fondement, la source, le début de la vie de l'Église et de sa mission. Et non pas simplement la source, mais c'est aussi le sommet. Alors, c'est l'Eucharistie qui englobe absolument tout. Alors, qu'est-ce que va nous dire le pape dans ce document? Il est divisé en trois grands chapitres. C'est le premier chapitre, c'est croire dans l'Eucharistie. l'Eucharistie. Eucharistie, mystère à croix. Et quand on parle de mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Hein? Un mystère, c'est une réalité toujours à approfondir davantage, à creuser, à mieux saisir. Hein? Là, il faut demander hein, le sens de l'Eucharistie. Et la deuxième partie, c'est un mystère à célébrer. C'est une célébration et il y a des attitudes spirituelles pour mieux célébrer l'Eucharistie. Et la troisième partie, c'est un mystère à vivre. On doit devenir personne eucharistique, homme et femme eucharistique dans notre manière de vivre, dans notre style de vie. Alors le pape va parler de Marie d'une façon indirecte dans le document et aussi d'une façon directe. Et c'est surtout dans le dernier numéro de la première partie, c'est le numéro 33, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Et il va nous en parler aussi d'une autre façon à la conclusion de tout le document. Et c'est sur là-dessus que j'aimerais partager quelques réflexions avec vous autres cet après-midi. Le pape va nous parler de l'Eucharistie comme un mystère. Et moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Quand le ministre de la communion, un prêtre ou une autre personne déléguée, vous donne l'Eucharistie, quels sont les mots que cette personne prononce? Le corps du Christ. Cette expression-là, elle est chargée de sens. Il y a trois manières de comprendre cette expression et ces différentes manières se combinent l'une avec l'autre. L'une ne peut pas être sans l'autre. Elles sont complémentaires l'une de l'autre. Alors, je veux vous expliquer que veut dire cette expression « corps du Christ ». Corps du Christ veut dire le corps né de la Vierge Mère. Vous connaissez l'hymne très célèbre « Ave Verum Corpus hein? ». Ça a été composé vers le XIIIe siècle. Ça a été mis en musique par Mozart. Et cet hymne était chanté à l'occasion de l'élévation de l'Eucharistie. Durant que le prêtre tenait l'Eucharistie élevé, on chantait cet hymne. Alors, je vous transcris en français les paroles qui sont en latin. Salut, vrai corps, né de la Vierge Marie, ayant vraiment souffert et qui fut immolé sur la croix pour l'homme, ô doux, ô bon, ô Jésus, fils de Marie, ayez pitié de moi. Alors, par deux fois, nous avons une référence à la Vierge Marie en relation avec le corps du Christ. On dit vrai corps du Christ pour le distinguer d'un corps purement symbolique. Hein? C'est vrai, hein? Le vrai corps du Christ. Et la théologie actuelle insiste beaucoup sur l'identité entre le corps historique du Christ et son corps eucharistique. Quand je dis le corps historique, c'est celui qui est né de la Vierge Marie, qui a vécu à telle période de l'histoire, qui est daté et qui est à une époque où les Romains étaient les chefs du pays, et ce corps était un homme qui était Dieu, mais qui était juif. Hein? Donc le corps historique du Christ, c'est le même dans le corps eucharistique. Le corps eucharistique, nous allons le voir tout à l'heure, c'est le corps sacramentel. Hein? Donc c'est le même corps. De sorte que ce qui s'est passé à l'incarnation, hein, dans le sein de Marie, se passe encore à l'Eucharistie. C'est le corps et le sang du Christ, le même qui était dans le sein de Marie par la puissance de l'Esprit. Marie, dans le mystère de l'incarnation, et le pape Jean-Paul II insiste énormément là-dessus, anticipe, hein, ce qui sera la présence sacramentelle du Christ dans le mystère de l'Eucharistie. Le pape dit, tandis, c'est Jean-Paul II que je cite là, dans son document, au numéro 55, tandis que l'Eucharistie renvoie à la passion et à la résurrection, hein, c'est le Christ ressuscité, c'est celui qui a souffert, elle se situe simultanément en continuité de l'incarnation. C'est un aspect nouveau, hein, que l'Eucharistie, c'est une continuation du mystère de l'incarnation, d'où le rôle de Marie, hein, dans la puissance de l'Esprit. C'est dans le sein de Marie qu'a eu lieu la première Eucharistie, la première offrande du Christ à son Père. On connaît le fameux texte dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ça, c'est de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, et les versets 5 et 7. Donc, le corps eucharistique sacramentel, c'est le corps qui est né de la Vierge Marie dans la puissance de l'Esprit. Quand on dit le corps du Christ, il faut que je pense à ça. Hein? C'est le corps qui est né de la Vierge Marie. Deuxièmement, l'expression corps du Christ, hein, veut dire aussi corps sacramentel du Christ dans l'Eucharistie. Il faut bien comprendre le sens du mot sacrement. Hein? Un sacrement, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Le signe de l'Eucharistie, c'est le pain qui réalise le pain vivant, le Christ, et le vin qui réalise le sang du Christ. C'est un signe. Hein? Et la présence eucharistique sous le signe du pain et du vin est sacramentelle. Je ne dis pas présence matérielle, je ne dis pas présence physique du Christ comme si c'était un cierge sur la table. C'est une présence sacramentelle. Hein? C'est toute la personne du Christ, mais c'est pas ses os, ses nerfs, son sang charnel. Hein? C'est un corps ressuscité qui est tout à fait différent du nôtre. Et si l'on veut soutenir que c'est un corps matériel, physique, biologique, eh bien, on va nous accuser de cannibalisme. Et moi, je l'ai, cette expérience. Quand j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je vivais avec des cannibales, OK? Mais les protestants qui étaient là nous accusaient, nous, de pratiquer du cannibalisme lorsque l'on communiait au corps et au sang du Christ. J'invente rien là-dedans. Alors c'est un corps sacramentel, ok, avec tout ce que le sacrement signifie, mais c'est la présence totale du Christ, c'est toute la personnalité du Christ qui est en nous. Et on dit c'est une présence vraie, réelle, substantielle. Là encore, le mot substantiel, c'est un mot philosophique. Je frappe sur la table, je dis c'est la substance du bois, ok? Mais le mot substance philosophique ne veut pas dire cela du tout. Hein? Ce n'est pas une substance matérielle. Hein? C'est ce par quoi une réalité existe, c'est une notion abstraite, c'est l'essence de la réalité. Donc, c'est tout le Christ, c'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas une substance matérielle, physique, hein, substantielle. Puis l'Eucharistie n'est pas la seule vraie et réelle présence. Hein. Il y a d'autres présences du Christ dans la communauté qui s'élève, dans la parole qui est proclamée. Mais l'Eucharistie, elle, à la différence des autres, elle est substantielle. C'est toute la personnalité du Christ. Alors, c'est une présence dans l'esprit. Dans le fameux chapitre de Jean, le chapitre 6, qui est sur l'Eucharistie, qui est interprété dans ce sens, le pape s'en sert continuellement dans son document, spécifie bien comme clé de lecture de tout ce document, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites, hein, ceci est mon corps, c'est esprit et vie. Hein, c'est une présence dans l'esprit. Donc, ce n'est pas une présence aussi statique comme une statue en ivoire ou en plâtre, hein, mais bien au contraire une présence dynamique, une présence effective, une présence vivante. C'est un sang qui est répandu. C'est un corps qui est donné. Et ça, pas simplement dans le passé, mais immédiatement lorsque le prêtre prononce les paroles. Hein, c'est « Faites ceci en mémoire de moi », ça veut dire se souvenir et réaliser ou actualiser ce dont on se souvient. C'est à chaque fois, hein, que ce corps-là il est donné. C'est pas il y a 2000 ans, c'est immédiatement lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie. Il est présent d'une présence personnelle, interpersonnelle, relationnelle. Hein? Plus on va réagir avec cette présence, plus elle sera effective. Donc, je viens de mentionner deux sortes de significations au mot « corps du Christ ». Le corps né de la Vierge Marie et le corps eucharistique, c'est-à-dire sacramentel. Il y a un troisième sens au mot corps qui est très important. C'est dans le sens du corps mystique, hein, de l'Église. Corps du Christ veut dire aussi corps ecclésial ou mystique du Christ. Je cite l'Épiclèse. Bon, l'Épiclèse, c'est la descente de l'Esprit sur le pain et le vin. C'est une espèce de Pentecôte. À chaque Eucharistie, on a comme deux Pentecôtes. Hein? La première épiclèse se passe sur le pain et le vin, que l'Esprit Saint, hein, vienne changer ce corps et ce pain et ce vin au corps et au sang du Christ. C'est tout dans la puissance de l'Esprit. La deuxième épiclèse, elle n'est pas sur le pain et le vin, mais elle est sur chacun et chacune de nous. Que l'Esprit Saint vienne nous changer aussi dans le corps et le sang du Christ. Il faut bien le souligner, et c'est souligné à chaque Eucharistie. Je prends, par exemple, ce que le prêtre dit, bon, je prends le canon numéro 2, qui est très connu, là. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Vous avez deux sens différents du mot corps dans ce texte. Ils avaient le corps eucharistique, ils avaient le corps ecclésial, le corps mystique. Et ça, c'est la, pour ainsi dire, la deuxième consécration, la deuxième éditage de l'Esprit qui nous change dans le corps du Christ. Et c'est le Christ total, la tête et les membres. Le Christ, c'est la tête, l'ensemble, les membres de ce corps mystique. Je lis le canon numéro 3, hein? Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, l'Eucharistie nous remplit de l'Esprit Saint. Il y a deux pantôtes à l'Eucharistie. Hein? Remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Hein? Là encore, nous avons les deux sens du mot corps, le corps sacramentel et le corps ecclésial. Alors, de ce corps mystique, de ce corps ecclésial, le Christ en est la tête, nous en sommes les membres. Et la Vierge Marie, de ce corps ecclésial, elle en est la mère. La Vierge Marie, lorsqu'elle donne naissance au Christ, c'est le Christ total. La tête et les membres. Et nous sommes les membres du Christ. Elle nous donne aussi naissance. C'est une naissance, une maternité spirituelle. Hein? Donc, elle est la mère du Christ total. Et aussi, dans une autre perspective, elle est un membre par excellence ou suréminent de ce corps mystique, hein, dans la communion des saints et des saintes. À chaque Eucharistie, quand nous faisons l'invocation de Marie, c'est toujours dans la communion des saints et des saintes. Hein. Par exemple, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints et les saintes, que nous soyons rassemblés, etc. Alors, quelle est la différence entre ces trois corps? Le corps physique du Christ, né de la Vierge Marie, c'est terminé, et on ne peut rien ajouter à ce corps. Hein? Il est ressuscité. Le corps eucharistique ou sacramentel, lui-ci, il est complet. Je peux rien ajouter et supprimer, hein, ce corps sacramentel. Mais le corps physique, le corps, j'entends, mystique, lui, n'est pas encore complet. Lui est toujours à se perfectionner. Lui est toujours à grandir. Lui doit toujours recevoir d'autres membres. Hein? Donc, c'est là qu'intervient notre mission. Et quelle est la réponse que nous donnons lorsque nous recevons le corps du Christ? C'est Amen. C'est un Amen que nous pouvons marialiser. Parce que, comme le dit Jean-Paul II, c'est en parallèle avec un autre Amen. L'Amen de la Vierge Marie lorsqu'elle a dit Fiat. Fiat, ça veut dire qu'il me soit fait selon ta parole, ta volonté. Et lorsque nous disons Amen, c'est qu'il en soit fait aussi selon ta volonté. Donc, c'est en relation avec le Fiat de Marie. Le pape l'écrit d'une façon très précise. C'est le numéro 55 de ce document. Il existe une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange et l'Amen. Donc, ça va ensemble. Le pape va faire une autre analogie avec deux autres paroles. Hein? Faites ceci en mémoire de moi. Il va le mettre en analogie avec ce que la Vierge dit aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, on peut mettre ensemble ces paroles. C'est clair, le sens du corps, quand le prêtre dit le corps du Christ, ça a trois sens différents, trois sens complémentaires. Le corps né de la Vierge Marie, le corps sacramentel ou eucharistique, et le corps mystique, ecclésiaste de l'Église. Alors, ce n'est pas une parole là, qui est prononcée à la légère et surtout qui n'est pas reçue à la légère. D'accord? Alors, dans ce document, le pape nous le dit, j'invente rien, moi, l'Eucharistie est donc constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. C'est pourquoi l'Antiquité chrétienne désignait par la même expression Corpus Christi, le corps né de la Vierge Marie, le corps eucharistique et le corps ecclésial du Christ. Je vous en ai fait un petit commentaire. Oui. Je dis ça aux apôtres qui étaient là à la dernière scène, puis il a dit, répétez ça. Tout est complet. J'ai bien dit que le corps eucharistique, ce n'était pas un corps matériel, physique, c'était toute la personnalité du Christ. Et ça, c'est des expressions pour dire que c'est la personnalité du Christ. Parce que quand on donne l'hostie, tout est compris là-dedans. Si on donne uniquement le vin, tout est compris là-dedans. C'est un symbolisme pour signifier. Le prêtre peut distribuer la communion sur les deux espèces. Hein? Il peut le faire. Et normalement, dans une petite assemblée, si je célèbre la messe avec trois ou quatre personnes, je le fais. Hein? Mais quand il y a 500 personnes, c'est différent. Comme... ils peuvent le faire s'ils ont la facilité de le faire. Bon, alors nous continuons. Ça, c'est des règles liturgiques, là. Hein? Quand on peut faire, quand on ne peut pas faire, c'est marqué dans les gros livres. OK? Mais il y a l'interprétation aussi de ce qui est marqué dans les gros livres. Alors, je veux faire référence maintenant à ce que le pape dit de Marie et l'Eucharistie d'une façon plus directe. Hein? C'est le fameux numéro 33 de ce document. Tous les documents du pape sont numérotés. C'est pour nous aider à se référer d'une façon plus facile. Hein? Donc, dans ce numéro 33, il nous parle de l'Eucharistie et de la Vierge Marie. Et il se met au départ dans une perspective eschatologique de la fin des temps. Alors, c'est l'Eucharistie, hein? Il viendra à chaque proclamation que nous disons précédemment, hein? On fait toujours référence à l'Eucharistie dans son symbolisme ou dans sa signification eschatologique. Mais ce que je veux vous lire, c'est en relation avec la foi de Marie. La foi, c'est la donation de soi d'une façon totalement libre à une personne. Hein? C'est pas simplement croire à une doctrine, mais c'est s'engager vis-à-vis quelqu'un, hein, d'une façon libre et responsable. Je m'engage vers au Christ et la Vierge l'a fait d'une liberté totalement extrême et aussi dans une disponibilité inconditionnelle. Alors le pape me dit ceci, la foi obéissante est la forme que sa vie assume en chaque instant devant l'action de Dieu. Alors, la Vierge Marie, c'est la femme de la foi. Le pape Jean-Paul II la présente dans son pèlerinage de la foi. Hein, dès l'incarnation jusqu'au calvaire, c'est une foi extraordinaire. Elle est la Vierge à l'écoute. La foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est une écoute qui suppose l'obéissance. Quand une mère dit à son petit gars, écoute, hein, ça veut dire obéir. Hein. C'est, je ne veux pas que ça passe d'une oreille à l'autre. Hein. C'est obéir à la parole de Dieu. Et cette obéissance de la Vierge, elle écoute la parole de Dieu. Elle la médite, elle est attentive à cette parole, elle la retourne dans son cœur, elle la contemple, et elle la met en pratique. Donc, il y a trois stages différents. Mais la parole de Dieu, ça ne tombe pas du ciel, ça. Hein? C'est pas de la magie, ça, la parole de Dieu. Hein? Après, puis j'enregistre ça. C'est pas ça, la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, elle est dans les événements, dans les personnes, dans les circonstances de la vie et dans tout ce qui se passe dans l'histoire. Et avec une vision de foi, il faut trouver la parole de Dieu là-dedans. Elle est proclamée par les prophètes, elle est proclamée par différentes personnes. Hein? Il faut la trouver dans une optique et une vision de foi. C'est pas de la magie, ça, la parole de Dieu. Hein? C'est dans les événements qu'elle se trouve. D'ailleurs, lorsqu'on emploie en grec le mot « parole », ça veut dire « parole » et « événement ». Ça va ensemble. Comment cet événement-là me parle? Hein? Et ça prend du discernement pour trouver la parole de Dieu. Hein? C'est pas de la magie, là. OK? Quand c'est inspiré, c'est la même chose. Elle est inspirée, c'est l'esprit qui travaille à travers les personnes et à travers les événements. C'est pour ça que Marie la contemple, la médite, la retourne dans son cœur pour bien en saisir le sens et ensuite la mettre en pratique. Alors, elle est la grande croyante qui, pleine de confiance, se met entre les mains de Dieu, s'abandonnant à sa volonté. Et ce mystère s'intensifie jusqu'à parvenir à son plein achèvement dans la mission rédemptrice de Jésus, c'est l'Eucharistie. Comme l'a affirmé le Concile Vatican II, la bienheureuse Vierge, elle aussi avança dans son pèlerinage de foi, et elle a gardé fidèlement son union avec son Fils jusqu'à la croix, au pied de laquelle, non sans un dessein divin, elle se tint debout, compatissant vivement avec son Fils, s'associant d'un cœur maternel à son sacrifice, hein, et donnant le consentement de son amour à l'immolation de la victime, mais d'elle, hein, de son sein. Et finalement, elle a été donnée par le Christ Jésus lui-même, mourant sur la croix, comme mère aux disciples, par ses paroles, « Femme, voici ton fils. » Et j'aime à souligner cette intuition de Jean-Paul II, avec ses paroles, « Voici ton fils. » À chaque Eucharistie que nous célébrons, hein, le Christ nous donne encore Marie comme mère. Lorsque le prêtre dit « Faites ceci en mémoire de moi », quelle est cette mémoire? Hein? C'est tout ce qui s'est passé au pied de la croix. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait au pied de la croix? Marie et le disciple bien-aimé et le Christ qui fait son dernier testament, un testament d'amour, et qui donne à Marie un héritage et lui donne un fils. Et c'est chacun et chacune de nous. Et le disciple bien-aimé a pris Marie chez lui. À chaque Eucharistie, le Christ nous donne Marie comme une mère et nous sommes son héritage. Je vous lis ce que le pape Jean-Paul II nous dit dans le numéro 57. C'est une intuition. Hein? Faites cela en mémoire de moi. Dans le mémorial du Calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. Hein? C'est pourquoi ce que le Christ a accompli envers sa mère il l'accomplit aussi en notre faveur. Quand on dit mémoire au sens biblique, c'est pas se souvenir d'un événement pieux, sentimental, c'est réactualiser ce dont on se souvient. C'est le mettre de nouveau en action. Il s'accomplit, il lui a en effet confié le disciple bien-aimé, et ce, et en ce disciple, il lui confie également chacun et chacune de nous. Voici ton fils. Il ne dit pas voici tes enfants, là. Ton fils, c'est personnel. Voici ta fille, ton fils. C'est une relation personnelle qu'on établit avec la Vierge. On a une relation de maternelle. Une mère qui a deux, trois, cinq enfants, sa relation avec chaque enfant est différente. C'est personnel. Donc, voici ton fils. De même, il dit aussi à chacun ou à chacun de nous, voici ta mère. On l'accueille, Marie, ou on ne l'accueille pas. Ça, c'est à chaque Eucharistie. Vivre dans l'Eucharistie, le mémorial de la mort du Christ, suppose aussi de recevoir continuellement ce don, le don de la Vierge Marie. Cela signifie prendre chez nous, à l'exemple de Jean, celle qui chaque fois nous est donnée comme mère. Cela signifie en même temps nous engager à nous conformer au Christ en nous mettant à l'école de sa mère et en nous laissant accompagner par elle. Marie est présente avec l'Église et comme mère de l'Église en chacune de nos célébrations eucharistiques. Je pourrais faire encore un long développement là-dessus. Présente, j'ai parlé de la présence de Marie, elle est présente par la pensée, présente par l'amour, présente par la ressemblance, par notre union avec elle. Là, je pourrais parler de sa présence à l'Eucharistie avec l'Église, premièrement, et deuxièmement, comme mère de l'Église. Mais je veux continuer avec ce que j'avais promis. Donc, le pape, lui, nous parle, dans sa conclusion, de la Vierge Marie en relation avec l'Eucharistie. Les deux derniers numéros, les numéros 97 et 96. Alors, le pape nous propose quelques réflexions qui sont intéressantes. En 5, Benoît XVI, dans les deux numéros de conclusion de son exhortation apostolique au sujet de Marie et l'Eucharistie. Premièrement, il propose de prendre Marie comme une compagne lorsqu'on célèbre l'Eucharistie. Que Marie très sainte nous accompagne. Que Marie, très sainte, Vierge Immaculée, Arche de l'Alliance Nouvelle et Éternelle, nous accompagne sur ce chemin de la rencontre avec le Seigneur qui vient. Et là, le pape, dans cette conclusion, nous livre une espèce de litanie mariale qui est très belle. Je vous propose quelques invocations de cette litanie. Et pour vous mettre plus en forme, de réagir, je vous demanderai de répéter après moi. Moi, je vais dire Marie très sainte et vous dites priez pour nous. OK? Et dans votre cœur, vous répétez maintenant Marie très sainte, priez pour nous. OK? Ça va nous permettre d'intégrer les paroles du pape. Êtes-vous d'accord là-dessus? Bon. Ça, c'est les textes là, qui sont dans la conclusion. Marie très sainte. Répétez dans votre cœur en silence. Marie très sainte. Marie immaculée. Priez. arche d'alliance nouvelle et éternelle. Femme eucharistique, icône la mieux réussie de l'Église, modèle de vie eucharistique, bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Mère du Seigneur, Mère de Jésus-Christ, Mère de l'Église, la toute belle, miroir fidèle de beauté liturgique, splendeur de la gloire de Dieu. Alors, ce sont des textes, là, qui sont très riches, non, pour notre méditation. Je répète le premier texte, que Marie très sainte, Vierge Immaculée, Arche de l'Alliance, Nouvelle et Éternelle, nous accompagne. Voyez-vous, il faut les sortir, ces louanges à Marie, à travers les textes que le pape nous propose. Ensuite, le pape nous fait quatre recommandations, quatre petites recommandations. La première, c'est de recommander à Marie notre existence, notre vie et notre travail. Ça, c'est toujours à l'occasion de l'Eucharistie. Les fidèles, quant à eux, recommandent à Marie, Mère de l'Église, leur existence et le travail. Deuxième recommandation, d'avoir les mêmes sentiments que Marie lorsqu'on célèbre l'Eucharistie. Hein? S'efforçant d'avoir les mêmes sentiments que Marie. Les mêmes sentiments que Marie. Hein? Imaginez-vous, Marie, que lorsqu'elle-même, après la résurrection et que les apôtres célébraient l'Eucharistie, qu'elle recevait le corps et le sang du Christ, hein, le même corps et le même sang qui provenait de son sein dans la puissance de l'Esprit. Vous pouvez imaginer ses sentiments. Okay? On se met aux sentiments de Marie. Et un de ses sentiments, c'est de s'offrir en louange de gloire, comme une offrande à la louange de gloire. Hein? Ils aident toute la communauté à vivre en offrande vivante, agréable au Père. À chaque Eucharistie, on le dit, hein, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de sa gloire. Et quand on parle de louange, c'est une prière, mais c'est la prière la plus gratuite, la plus désintéressée. Hein. C'est pas pour demander, c'est simplement pour louer. Hein. Rendre grand, hein, la puissance de Dieu. Donc, ce sont des recommandations et aussi, il nous demande de devenir des personnes eucharistiques et ecclésiales. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir une personne eucharistique? Hein? L'Eucharistie, c'est l'offrande du Christ à Dieu son Père, c'est de nous offrir, nous aussi, hein? L'Eucharistie, c'est une action de grâce, une louange, hein, c'est la prière du Magnificat de la Vierge Marie, et il faut s'offrir à chaque jour en louange et en action de grâce. Hein. C'est ça, vivre de l'Eucharistie. Hein. Et devenir des personnes eucharistiques et ecclésiales. Là, pour revenir à notre fameux corps mystique, hein? Le corps du Christ est un corps ecclésial comme un corps physique, hein, différents membres, et les membres sont au service les uns des autres. Et c'est dans le même sens, dans l'Église, on doit être au service les uns des autres de tous les membres du corps mystique. Donc, quatre petites recommandations. Une prière que le pape nous offre. Une prière à l'Esprit-Saint par l'intercession de la Vierge Marie. C'est le numéro 97. Par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, que l'Esprit-Saint... Alors, il fait quatre demandes. Je veux dire deux demandes. Que l'Esprit-Saint enlève en nous la même ardeur dont les disciples d'Emmaüs firent l'expérience. Hein? Notre cœur n'était pas tout brûlant lorsqu'il célébrait l'Eucharistie. Hein? Donc, on demande un cœur brûlant, un cœur enflammé d'amour. Hein? Et on demande aussi de renouveler en nous l'émerveillement eucharistique. Le pape commence son texte en nous parlant de l'émerveillement de l'Eucharistie. Il est grand le mystère de la foi et il est merveilleux, extraordinaire, quand on y pense d'une façon très sérieuse. Et il termine son texte aussi en parlant de l'émerveillement de l'Eucharistie. Il ne faut pas être blasé devant l'Eucharistie, hein? Faut s'émerveiller. Il n'y a rien de plus grand, de plus excellent, de plus merveilleux. Hein? On est devant un trésor extraordinaire. Donc, on demande ça à l'Esprit-Saint, hein, de nous réveiller, de renouveler dans notre vie l'événement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pour une mission. Un corps versé pour les autres, un sang donné, un sang versé pour les autres, un corps donné pour les autres. C'est une mission. Alors, il nous envoie en mission. Mais quelle est cette mission? De partager notre joie de la célébration eucharistique. Et un peu de le faire comme la Vierge Marie nous donne la hâte, hein, elle s'en allait en hâte visiter sa cousine Élisabeth, nous donne la hâte de partager notre joie. Et deuxième mission, nous rendre des témoins de ce mystère d'amour. Hein, c'est le titre, hein, le sacrement caritatis, sacramentum caritatis, le sacrement d'amour, c'est le sacrement d'amour par excellence. Et il termine en faisant un souhait mutuel. Il nous dit ceci, souhaitons-nous mutuellement d'aller plein de joie et d'émerveillement vers l'Eucharistie, vers le congrès eucharistique, allons-y plein de joie et d'émerveillement, mais à chaque célébration eucharistique aussi, pour faire l'expérience de la vérité de la parole par laquelle Jésus se sépara de ses disciples pour l'annoncer aux autres. Je suis avec vous tous les jours. Faire l'expérience et annoncer la présence continuelle du Christ. Alors, c'est quelques réflexions très brèves que je vous ai proposées en prêt. Quand je dis de devenir une personne eucharistique, c'est devenir, hein, comme l'Eucharistie, hein, le sens de l'Eucharistie, c'est de s'offrir en sacrifice à Dieu le Père. Hein. Devenir une personne ecclésiale, ça veut dire bien saisir qu'est-ce que ça veut dire le corps mystique dans ma vie. Veut dire mystique, le corps de l'Église. Non, il n'y a pas de troisième là. Alors je termine avec une petite prière. Faut que je la trouve là-dedans. Je termine avec cette petite prière. Nous te prions, on peut regarder la Vierge, hein? Nous te prions, Vierge Marie, toi, la femme eucharistique, fais-nous participer à ton émerveillement devant ce grand sacrement de l'amour. Obtiens-nous la grâce de croire, de célébrer et de vivre ce grand mystère de notre foi avec joie et ferveur dans la perspective de ton Magnificat. Aide-nous à entrer en communion profonde avec le Christ eucharistique. Prête-nous ton cœur pour recevoir amoureusement Jésus, pour l'adorer profondément et pour vivre avec lui une amitié intime. Ô Vierge Marie, présente notre prière à ton Fils pour que, par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire soient rendus au Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Fin de mon petit laïus. Merci beaucoup.